de la quotidienneté. Il nous colle le nez sur la genèse de l'être et des formes avant qu'elles ne se prennent les pieds dans les redondances dominantes, y compris celles des styles, des écoles, des traditions, de la modernité. Bien, ça continue. Ce que je voulais dire à propos de ce passage, c'est que Guattari a eu une pratique de la performance. Il est passé de l'autre côté de la barrière, il est monté sur scène lors de workshops, de soirées organisées par Jean-Jacques Lebel dès les années 80. Il y a des photos qui existent de ça, notamment deux happenings que Guattari a fait en 86 au Café de la Danse. Une photo le montre debout, seul sur scène, debout en avant-scène, fixant le public dans les yeux pendant un quart d'heure. Et lors de ma thèse, j'ai pu rencontrer Jean-Jacques Lebel, qui en garde un souvenir impérissable de ce happening. Et il m'a nommé certaines personnes qui étaient présentes dans le public, et donc du coup j'ai pu appeler ces gens qui étaient dans ce public. Et nombreux sont ceux qui en gardent un souvenir beaucoup moins impérissable. Et c'est drôle, voilà, de recueillir les témoignages divers. Et alors certains m'ont dit que c'était nul, qu'un psychanalyste devait rester en dehors de ses pratiques théâtrales, etc. Bon, voilà. Et finalement, voilà, pour Guattari, la scène a été, je pense, dans sa vie beaucoup assez importante. C'est aussi une information que m'a confirmée un vieil ami à lui, Jean-Baptiste Thierré, circassien, qu'on a pu applaudir récemment au Théâtre du Rond-Point, qui est marié à Victoria Chaplin, marié d'ailleurs à Laborde dans les années 70, et qui a rencontré Guattari à Laborde en 69, magicien de son état. Et lors d'un entretien, Jean-Baptiste Thierré m'a dit: mais vous savez, Félix Guattari, finalement, a toujours rêvé d'être un homme de spectacle. Voilà, je conclurai là-dessus.
Merci Flore, merci Isabelle. Donc en fait, là, je pense qu'on a un petit moment pour se poser des questions ensemble sur ce qu'on a pu connecter entre nos lectures et celle de nos amis et de ce qu'ils fabriquent par ailleurs, en connexion. Voilà. Donc la parole est à nous tous.
Je m'excuse d'être arrivé un peu en retard, donc j'ai manqué un certain nombre de choses, mais j'ai eu l'impression qu'à part les images qu'on a vues sur l'écran, on a été confronté essentiellement à des textes. Ce qui est un paradoxe au fond, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'imaginer ce que ces textes peuvent devenir, soit sur l'écran, soit sur une scène de théâtre, etc., etc. Or, cette imagination, c'est nous qui la faisons. On peut toujours penser comment Félix aurait vu, aurait mis en scène la chose. Je pense que les propositions que chacun ferait ici seraient absolument singulières. Chacun de nous a une certaine manière d'imaginer ce que peut donner ce soubassement conceptuel en situation, on pourrait dire. C'est-à-dire, les pragmatiques, c'est nous. Nous sommes dans un travail d'élaboration au fur et à mesure qu'on entend les phrases. On imagine, on essaye de voir, et on essaye de voir au-delà de ce qu'on voit, même quand on est en face de l'écran. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les commentaires qu'on peut faire, mis à part peut-être les amis qui sont là à gauche, qui avaient écrit et préparé quelque chose qui, malgré la difficulté et l'abstraction des concepts, semble quelque chose de solide, je dirais. Moi, j'ai l'impression que, et c'est un compliment que je vais faire, il ne faut pas le prendre comme une critique, j'avais l'impression d'entendre parler un schizophrène. C'est-à-dire qu'on y arrive enfin à faire quelque chose qui est de l'ordre de la schizophasie. Par exemple, quand vous disiez comment vous imaginez les choses, etc., vous cherchiez des mots, et finalement, tout d'un coup, il y avait cette musicalité, l'hétérogénéité, la difficulté de suivre. Par exemple, une des caractéristiques essentielles du discours d'un schizophrène à la porte, quand j'écoutais quelqu'un qui parlait, c'était qu'au bout d'un quart d'heure, quand il avait fini, il m'était totalement impossible de reproduire ne serait-ce que deux phrases de ce qu'il avait dit. Rien ne pouvait s'imprimer véritablement parce qu'il y avait une telle désorganisation, une telle hétérogénéité des éléments, une telle dispersion, on pourrait dire, des idées, qu'il n'y avait pas de possibilité de mémorisation. On était donc pris dans un processus, le temps du processus, et après, il fallait continuer pour nous-mêmes. Hein. On ne peut pas reproduire, entendre, mémoriser ça, ni l'inscrire, au fond, d'une certaine manière. C'est non inscriptible. Et c'est ça sa qualité. C'est-à-dire que ce texte, dans Chaos Cosmos, c'est aussi un texte qui nous fait délirer, nous. Enfin, moi, je pense. C'est une de ses qualités, c'est de nous permettre, de nous donner le droit, au fond, d'une certaine manière, de filer dans des directions absolument comme ça, dispersées, effectivement, et de ne pas se soucier de donner à cela, à ce travail que nous faisons dans l'imaginaire, hein, dans l'espace et dans le temps, ne pas s'obliger à l'enfermer dans la structure élaborée ou la syntaxe ou la rhétorique d'une phrase, hein, et d'un texte.
Oui, mais de ce disparate, je ne sais plus, c'est toi qui as fait une petite citation à un moment où j'ai été sensible, du moins, à un moment où tu dis, ou dans le texte que tu as lu, voilà, il mentionnait de rassembler, c'est-à-dire des personnages, là, à un moment, c'est toi qui as parlé des personnages qui étaient un petit peu comme ça, insignifiants, et comment cette façon un peu, quand même, de passage à une forme, à une dramatisation de l'idée, faisait qu'ils se mettaient à tenir ensemble quand même, tenaient ensemble dans un propos qui devient du théâtre. Et que donc, ce qui nous intéresse peut-être malgré tout à cette frontière-là, de la schize et d'une production énoncée avec les signes, mais qui va faire un énoncé qui tient, c'est que cette disparité, elle se modifie quand même à partir du moment où on la procède dans le temps et que c'est un enjeu, je pense, justement, important dans Chaosmos, cette extrême disparité qu'on voit depuis le départ, depuis le début. On a souligné à quel point on était dans un grand écart et en même temps, ce grand écart, il est tenu, il est entretenu dans le temps et dans un propos qui l'empêche d'être explosé et dispersé. Voilà. Qui propose au moins que toute cette dispersion, cet état dispersé, soit quelque chose qu'on puisse... comment t'as dit, toi, aujourd'hui, qu'on était schizophage
Phase. Non, avec un S.
Parole. Ah oui. Bah, oui, justement ça. Donc ça c'est approcher un mode que propose probablement Chaosmos, dont on peut essayer de parler d'ailleurs. Ça serait. On arrive à la lecture un peu du milieu du livre et on bascule, on sent bien qu'on bascule dans la proposition artistique par le biais de la proposition artistique. C'est un biais, c'est pas un but. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est justement tracer une ligne dans le disparate et tenir dans quelque chose, peut-être.
Les pièces de théâtre jouent sur ce délire et sont assez beckettiennes, c'est-à-dire qu'elles décrivent le plus souvent des ratages Elle cherche, en général, les personnages font tout pour qu'il se passe quelque chose, et quand il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une mise en forme, une situation, eh bien, ça avorte, et finalement, il ne se passe rien, comme dans Nathan Godot, etc. Et Guattari, dans les pièces de théâtre, évoque souvent la théorie du clinamen chez Lucrèce, c'est-à-dire, alors je ne suis pas très costaud là-dessus, mais ce sont des particules qui, à un moment donné, dévient leur trajectoire et font qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à la ligne droite qu'elles auraient poursuivie. Et à plusieurs endroits, il compare ses personnages à ça. Voilà.
Je veux dire quelque chose seulement par rapport au cinéma, l'idée de. Parce que le scénario de Guattari, au début, c'était écrit avec l'idée que Robert Kremer réalisera le film. Mais après, l'idée de Guattari, c'était de réaliser le film lui-même. Et c'est intéressant de penser à l'évolution du scénario, que quelquefois les scénarios sont écrits par quelqu'un et après pour être réalisés par quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, c'est un peu une mutation dans le sens que Guattari pensait de réaliser le film lui-même. Et, parce que ça changeait beaucoup la façon dont le scénario a été écrit, parce que la dernière version, on voit dans les descriptions de scènes. On peut dire, même si on délire dessus, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir exactement, mais on voit une idée beaucoup plus précise au niveau d'image visuelle et des mises en scène aussi, de ce que Guattari aurait pu être comme cinéaste. Et je pense que c'est important aussi de chercher, dans les limites qu'on peut, d'imaginer quelque chose qui s'y tient, comme Pascal tu as dit, et d'imaginer quel type de cinéaste Guattari aurait pu être. Parce que, comme il dit dans la réalité machinique, par rapport à la question qu'on est saisi par une espèce de composition hyper complexe, univers de référence d'un artiste, ou il parle de Debussy, de jazz, ça peut être Miles Davis, John Coltrane, ça peut être très, très, plus, beaucoup plus précis. On peut dire la même chose pour le cinéaste, que le cinéaste. On reconnaît un grand cinéaste, au moins à mon avis, peut-être ça le seul sens qui reste de politique d'auteur, par l'univers de référence qu'on reconnaît tout de suite. On reconnaît celle du Godard, on reconnaît celle de David Lynch, on reconnaît celle de Cassavetes, et on ne sait pas exactement pourquoi, mais parce que c'est la composition qui est tout ensemble. Et donc on a cherché à imaginer qu'est-ce que cette composition Guattari, c'est comme on aurait pu dire à un certain moment dans le futur. C'est le film a été réalisé, c'est du Guattari, et qu'est-ce que c'est cette chose, c'est du Guattari. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont qui construisent un plan de consistance dans le scénario, et ce sont par exemple l'idée en vue du bande dessinée, d'aplatissement. Il parle lui-même de l'idée que le scénario c'est mi-bande dessinée, et il y a aussi cette hétérogénèse de forme qui implique aussi le théâtre et la performance. Et ça, c'est vraiment une idée processuelle du cinéma qui est partagée par Robert Kramer. C'est que le cinéma implique aussi le théâtre et la performance des autres arts, l'architecture. Il est très, très interdisciplinaire comme cinéaste ou comme penseur du cinéma, Guattari. Et il y a aussi la question de l'humeur. Ce n'est pas un cinéma de l'horreur ou tragique ou de pathos, c'est vraiment un cinéma comique et burlesque. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de fantôme dans le cinéma de Guattari, il n'y a pas de fantomatique. Et donc c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est plutôt du Tati, de Jerry Lewis, une chose comme ça, de délirant et de burlesque. Et je pense que bon, pour moi et Sylvia, on veut chercher un peu de construire cette future intérieure, un peu d'imaginer la réalisation de ce film-là. Peut-être que c'est impossible, on va chercher de le faire, de réaliser ce film dans la manière, comme c'était par Guattari, comme c'était une espèce de mise en scène par Guattari. D'ailleurs, il avait un autre projet, Kafka Machine, où il imaginait un film mise en scène de Kafka, un film par Kafka, pas un film sur Kafka, mais un film par Kafka. Donc c'est co-imaginer un film par Kafka, on cherche d'imaginer un film par Guattari.
Moi, en relisant ces chapitres, j'ai trouvé que surtout le chapitre Chaosmos Schizo, c'était un texte clinique absolument formidable sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les psychotiques et comment, en fait, la psychose et la schizophrénie, mais plutôt la psychose, en fait, le chapitre est entièrement sur la psychose, ça pourrait être autre chose que ce qu'on raconte d'habitude. Et justement, il y a un moment d'ailleurs où ça passe à l'esthétique, enfin, je l'ai noté, enfin je ne vais pas en parler là, et puis aussi ce qui m'a frappé par rapport à la réputation de Félix, c'est que au fond, la manière dont il présente la chaosmos, en fait, cette chaosmos schizo, c'est au fond une autre manière de nommer l'inconscient. Il dit même que c'est le mérite de Freud d'en avoir indiqué le chemin dans la trame de tout. Enfin, donc, j'ai pas rêvé, c'est dans le texte. Et donc, en fait, la chaosmos, d'après ce que j'ai compris dans cette lecture, c'est l'inconscient travaillé d'une autre manière, justement. Enfin, et aussi analysé d'une autre manière, d'où enfin, ce qu'il doit analyser donc, prend sens vraiment de cette lecture.
Possible. Pas possible. Sardine, sagouin, sirène, silure, sera. Scorpion, scolopendre, souisson, solibère. Tortue, tarantule, tapir, tatou, tous, toujours, unis. Vive, ver, veau, vache, venin.
nul. Oh, méga.
Pollué. Quand t'as raison, ceci perdure.
Avance.
Libre. Where?
X. Yaka. Zut.
De quoi que ça caoutchouse là. De quoi que ça caoutchouse, Françoise. Avec un Z.
Zoui.
Avec un Z.
Oui.
Zoui.
Zoui, zoui.
Avec un Z de l'alphabet. Est-ce qu'on a vraiment envie de philosopher après ça? Est-ce qu'on a envie de traîner des pieds dans les concepts? Où est-ce qu'on a compris par passage d'affect, cosmos avec un Z, comment ça marche? Comment ça marche avec une skise? Une skise qui n'est pas une fêlure qu'il faut voir de l'extérieur, comme quelque chose qui séparerait une région. Une skise, c'est un carrefour, quelque chose qui prend. Et cosmos, le problème, c'est cette prise. Cette prise, cette gelée en voie d'émulsion. Autrement dit, que quelque chose nous intéresse, que quelque chose frictionne, fractionne du sens. Alors, cosmos, c'est pas du chaos, c'est pas non plus de l'osmose, c'est pas du chaosmos, c'est rien à voir avec Joyce, une vieille chose, le chaosmos. Chaosmos, c'est l'idée d'un processus, d'un sens. Et pas seulement d'un sens, c'est la façon dont ça coagule, dont, disons, ou alors plutôt ça percole, comment du sens percole. Et donc la contamination d'affect est bien bonne, elle est excellente. Pour rentrer là-dedans. La contamination d'affect, on vient de la sentir passer, on l'a senti passer en clignotant dans nos neurones. C'est comme ça qu'on pense aussi à la limite de la parole. On ne pense pas seulement dans les mots, on ne pense pas dans les mots écrits, pas forcément non plus dans les mots parlés, quand ils sont logiques et cousumains. On peut penser dans les mots disjonctés. Disjoncter, c'est fêlure. Fêlure, un autre mot pour skise. Skise comme carrefour, c'est-à-dire la voilà la fêlure. Elle est en train de se produire. Elle ne se produit pas comme quelque chose qui trace dans un territoire un ici et un là, mais elle se produit comme quelque chose qui configure un territoire. Je n'arrive pas à le dire assez simplement. Et pourtant, c'est tout simple. On y est presque. C'est très facile à penser. C'est tout près de nous. Très difficile aussi, parce que c'est exactement aussi ce qui est en jeu dans la pensée de l'image. Alors je vais l'attaquer comme ça. Image, personnage d'image. Une image chez Guattari, chez Félix, exactement comme chez Deleuze. Une image, c'est une coupure de flux. Une coupure de flux, trop de vent dans le micro. Une coupure de flux entre une face qui est une face perceptive, et une face qui est une face active, perceptive et active, un peu plus près, perceptive et active de cette façon-là, voyez-vous, une image, c'est très simple, c'est un rapport de force qui sourde comme ça. D'un côté, au lieu d'avoir des forces qui traversent, vous voyez s'épaissir quelque chose de la perception. De l'autre côté, au lieu d'avoir les forces qui s'en vont. Vous voyez se déclencher un arc moteur, et entre les deux, vous avez l'arc sensoriel d'une affection. Une image, c'est une sorte de pli, un éventail comme ça. Cette image, on l'a eue en parole, on l'a eue en pensée, on l'a eue sur l'écran. Cette image, on l'a aussi dans l'idée des personnages Guattari, si Guattari avait transformé son écriture de théâtre et de cinéma en cinéma à images ou en théâtre agi, s'il l'avait porté à la scène complètement, ça aurait donné un résultat que nous n'imaginons pas. Mais ce que nous pouvons voir dans les mots, c'est la manière dont ces personnages ne sont pas des personnages même à déterminer comme des personnages du type Beckett, par exemple, parce que ça serait déjà une référence. On pourrait les rapprocher peut-être de personnages du type Tchekhov, si on voulait, en faisant une sorte de d'arc entre Tchekhov et Beckett, parce que chez Tchekhov aussi, les personnages sont là, et ils se demandent que faire. Et ils sont pris dans une suspension, une sorte de gelée de temps. Entre Tchekhov et Beckett, il y a quelque chose qui, pour répondre à ce que disait Brian Thompson tout à l'heure, n'est pas une critique du personnage balzacien fini, couturé, avec son chapeau, ses bottes, son cheval, son identité, sa personnalité, son action dans un monde construit. Les personnages de Balzac aussi, les personnages du western américain, les personnages bien centrés, individués, vous sur vos chaises, ces personnages-là sont aussi des fêlures, aussi des esquisses. Une fois qu'on pense en termes d'image, c'est qu'on pense en termes de création d'individuation, des individuations qui sont composées de Leuze, Guattari, d'écrit, de vitesse et de lenteur. Il faut comprendre très simplement vitesse et lenteur comme des mouvements réels de la matière. Un livre, une table, vos chaussures, cette bouteille d'eau, ce soir ici à Montreuil, des éléments corpusculaires de matière qui entretiennent entre eux des rapports de vitesse et de lenteur, et des passages, des variations de puissance. Une image n'est rien de plus que ça, rapport et puissance. Et dans ces rapports et puissance, elle se détermine comme affect, comme percept, comme action et concept. Et ce que Guattari nous dit dans Chaosmos, c'est le... non pas vous assis sur vos chaises, mais la face intensive de votre manière d'être assis sur vos chaises, la fracture, la crise, c'est ça la schise. Carrefour, crise, c'est-à-dire quelque chose qui sépare, mais qui ne sépare pas tristement le passé de l'avenir, d'ici, du maintenant, l'ailleurs, du etc. C'est pas une séparation entre deux moitiés, c'est la séparation que nous éprouvons à chaque moment, que nous sommes en train d'éprouver là, parce que au moment où peut-être nous comprenons ce que c'est que Chaosmos, ce Z, cette zébrure, cette traversée, ce court-circuit qui est celui de la compréhension. Il n'y a pas de compréhension en dehors d'un coupe-circuit qui coupe les circuits antécédents, qui coupe, qui crée. Couper, c'est créer. Couper, c'est créer un flux. Couper, c'est créer une perspective. Cette coupe, c'est dans la Chaosmos, l'aspect schise, avec sa fêlure bouleversante et fragile, qu'il ne faut pas prendre comme un éloge de la folie, qu'il ne faut pas prendre comme si nous devions convoquer parmi nous en héros l'artiste d'un côté, le schizophrène de l'autre, qu'il faut prendre au contraire comme la manière informulée, indéterminée, imprévisible, dont nos individualités se façonnent, se forment, se constituent, se transforment, se changent, et dont toutes les choses individuées, ce gobelet, la serviette sur la table, ce que je suis en train de dire, vous assis, nous projetons du côté de l'avenir un sens qui se met en phase. C'est cette phase qu'a osposé. C'est pour ça que c'est très simple en réalité à comprendre. C'est le sens versant de sa constitution et non pas le sens version arrêtée, figée. C'est pour ça que quand je nous écoute parler guattarien, je souffre aussi. Je souffre aussi quand je m'entends parler. Quand je mets au bon endroit du chaosique, du transversal, du machin chose, du trucuche, c'est-à-dire quand je vois dans ma bouche défiler comme des petits soldats au garde à vous tous les concepts bien rutilés à stiquer. C'est-à-dire des pensées mortes, c'est-à-dire une fêlure qui est vue de loin, dans un paysage où la gauche et la droite sont bien façonnées et qui n'est pas en train de travailler, traverser, transformer les mots qui essayent de passer de ma bouche à vos oreilles. On a vu Guattari, philosophe de l'oreille. Aujourd'hui, on a vu oralisateur, oralisateur de pensées, des pensées qui nous sortent par les yeux aussi bien qu'elles nous sortent par la bouche. Des pensées qu'on fait avec le bruit, qu'on fait, le bruit du souffle qu'on fait dans le micro. Des pensées qu'on fait quand du vent nous arrive entre les oreilles, et ça n'est pas si souvent. Des pensées qu'on fait ensemble, et qu'on fait lorsqu'on réussit à la faire scintiller la zébrure, à faire claquer le fouet d'un sens qui nous transforme parce qu'il n'était pas déjà là, parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Parce qu'on n'y avait pas pensé encore, et parce que quand on comprend qu'on se mange, alors, bien sûr, c'est quelque chose qui se produit pour la première fois.
Tu nous as proposé un terme sur lequel tu ne doutes pas, qui est celui d'image. Et moi, je trouve que ça fait problème. Pourquoi tu choisis ça ? Alors que, par exemple, moi je ressens les choses, ma version d'un chaos flow, ça serait un état plutôt. Comme on dit un état liquide, un état solide, un état gazeux, hein, d'un chaos flow, ça serait un état entre tout ça, quoi. Et ça serait donc une expérience, d'abord et avant tout, une épreuve. Hein? Attends, je te donne tout ça. Donc, le terme d'image, pourquoi pas, mais il ne comble pas ce sentiment d'être plongé dans quelque chose. Félix, il emploie souvent le mot grasping, qui renvoie d'ailleurs à toute une théorie des relations du nourrisson avec la mère. Le fait d'attraper le sein, s'y accrocher chez les petits singes, pour l'expérimenter, etc., s'accrocher à une machine. Mais donc la chaos, ça se dit à un moment. Disons un moment, une situation, une épreuve où on entre en contact avec, où il y a une possibilité de saisie, probablement extrêmement courte, hein, très délimitée, de quelque chose qui est un état, d'abord une épreuve, c'est-à-dire quelque chose qui serait plutôt du côté en effet de l'affect, des intensités. Pas forcément
non. Mais si, c'est parce que tu vois pas que dans l'image, c'est juste une question de vocabulaire. Enfin, bon, parce que dans l'image, je mets individuation. Dans l'image, je mets pas un petit truc visuel qu'on accroche au-dessus de son lit. Dans l'image, je vois pas ce qui se passe sur l'écran. Dans l'image, je ne mets pas simplement la chose qui bouge à l'intérieur de l'écran. Dans l'image, je mets ça. Je mets ça. Je mets moi. Dans l'image, je mets coupure. C'est-à-dire, je mets. Qu'est-ce que c'est que le sujet ? C'est un pli entre deux images, de ce point de vue-là. Hein ? Donc, c'est à partir de ça que je dis image. Alors, du coup, est-ce que j'ai gonflé la bulle de l'image jusqu'à en faire le mot pour tout ? Non ? Parce que dans l'image, ce qui est intéressant, c'est le côté. Coupure. Et puis, quand on dit image comme ça, ben, du coup, on a une assise bien confortable pour dire que l'art n'est pas en dehors, à côté. Pour dire que l'art n'est pas du côté de la récréation. Que l'art n'est pas quelque chose qu'on fait le soir après le boulot. Mais que l'art propose de façon très réelle des manières de s'individuer. Donc, dans l'image, je mets ce que tu nommes grasping. Existentiel. Mais faites attention que dans le grasping, vous auriez le petit bébé déjà tout fait, et justement, il n'y avait pas. Et dans le grasping, vous auriez sa petite main qui est en train de réunir. Ben non. Le grasping, c'est exactement aussi, bon, à la page 129 de différence de répétition, quand on dit que le froment est un nœud entre l'azote, les matières de la terre, et puis l'atmosphère, l'air, etc. Que le froment, il n'est pas donné comme un froment, enfin je veux dire un épi de froment, cet épi de froment, vous pouvez le voir comme un épi de froment, et vous pouvez le voir comme un nœud de l'ensemble des éléments qui nous continuent à être épi. C'est comme ça que je dis image. Et donc c'est graspine. Dans la cosmos comme graspine, il y a l'idée que quelqu'un ferait quelque chose. Justement, on essaie de penser comment cette prise de consistance produit de l'individu, produit du sujet comme son résultat. Donc c'est très très pareil et tout à fait différent en réalité. C'est-à-dire, on essaie de penser non pas, vous voyez, c'est pas la fêlure qui traverse la table, c'est pas la fêlure qui traverse un paysage déjà constitué, c'est la fêlure en train de traverser. Et c'est ça que nous sommes, cette fêlure. La cosmos, c'est cet élément de repotentialisation des choses qui se produisent en réalité. C'est très facile à comprendre, tu nous l'as fait comprendre très bien. C'est très facile à déclencher comme étincelle, à savoir que le sens n'est pas donné préalablement, mais qu'il se construit. Voilà. Et dans l'image comme individuation, il y a la possibilité de penser en même temps aussi nos corps, l'art, le social-politique, sans les aplatir sur un même niveau, mais en les faisant communiquer par autre chose que l'art représente la réalité, ou l'image représente le mouvement. C'est pour ça que je le fais comme ça. Moi, je me rends compte qu'on évolue, sur l'emploi, en tout cas, du mot cosmos au fil des chapitres. Moi, j'ai souligné, par exemple, dans une des pages, là, bon, c'est toujours un peu difficile d'extraire une phrase, mais je l'ai trouvée quand même extrême, et bien sûr, elle n'aurait pas pu apparaître en aucun cas dans les premiers chapitres ou au début. Ou, par exemple, on se souviendra dans les premiers chapitres, la délicatesse, enfin, disons, la façon progressive d'amener... ce que pourrait être justement des relations comme ça qu'on ne peut pas nommer par avance et qui prennent un peu le terme incorporel et qui jusqu'à reste abstrait, relativement abstrait, c'est une proposition et qu'on a du mal à la saisir, enfin disons qu'elle ne se laisse pas prendre. Et là on a quand même une phrase, ce n'est plus la question mais comment, dans quelles conditions peuvent le mieux venir au jour la pragmatique des événements incorporels qui recomposent un monde, réinstaureront une complexité processuelle. Donc il s'agit bien de ce que tu peut-être dis avec la fêlure active, c'est-à-dire que l'objet c'est de recomposer, c'est pas de... Enfin, de et ce grasping c'est aussi peut-être, si on essaye de faire du mouvement quelque chose qui peut nous permettre quand même de ne pas faire des distinctions trop, cryptiques comme ça par rapport à une, comme si un texte aurait une référence plus vraie, une interprétation. Mais je pense que c'est partout cet effet du mouvement qui se précise dans ce qu'il a de complexe et en même temps peut-être de très simple, mais pour la pensée, forcément, c'est disjonctif pour la pensée.
Moi, j'avais envie de poser une question parce que j'étais étonnée en lisant l'homogénèse schizo exacerbe la puissance de transversalité de la chaosmo, c'est page 117. Son aptitude à traverser les strates, à franchir les murs. D'où la capacité fréquemment relevée de nombre de schizophrènes à révéler, comme par mégarde, les intentions les plus secrètes de leur interlocuteur, à lire en quelque sorte l'inconscient à livre ouvert. Et pourquoi j'ai été étonnée, c'est qu'il y a un autre chapitre qu'on avait vu avant qui s'appelle l'hétérogénèse machinique. Donc, en bon petit soldat de plomb, justement, j'étais dans l'hétérogénèse et Axel Vray. Et dans tout ce chapitre sur la chaosmos schizo, on parle de l'homogénèse qui est quelquefois qualifiée de réductrice, mais aussi qui est justement qualifiée d'agent de la coupure.
Il me semble que c'est parce que dans cette page 116-117, ça commence comme ça, la cosmos schizo est un moyen d'imperception des machines abstraites qui œuvrent transversalement aux strates hétérogènes. Donc, blablabla, strates hétérogènes, des strates. Et transversalement à ça, on a la machine abstraite qui nous permet de comprendre comment l'hétérogène se constitue. Et alors ça, c'est, il dit très très joliment, intolérable foyer de créationnisme ontologique. Alors, créationnisme ontologique, j'aime pas parce que c'est très blablabla, mais intolérable foyer, vous voyez, comme ça, arrive. Bon. Intolérable foyer. Et cet intolérable foyer, il peut déconner de deux côtés. Il déconne quand, au lieu de s'hétérogénéiser, de continuer à proliférer, il s'homogénéise, et puis il s'homogénéise du côté de la folie, réduction, schizo, l'asilaire interné, c'est-à-dire c'est la catatonie, c'est la ligne de fuite, repousser en ligne de mort, etc. C'est le schizo qui rate, c'est-à-dire qui se durcit, ou bien il peut rater de l'autre côté. C'est où le deuxième? Il y a deux types d'homogénèse. Voilà. Tu vois, homogénèse normale ou névrotique, page 117 en bas, qui se garde d'aller trop loin, donc c'est le normopathe, et puis l'homo genèse schizo, qui coupe trop fort, et qui voyez-vous bien, hein, tu nous en diras quelques mots. Il y a en trop, il va trop, c'est tout. Donc entre les deux, l'hétérogénèse, elle tient un peu. Elle graspe du normalo et du schizo, mais c'est hétérogénéisant, c'est-à-dire non pas resserré, identifié, claquant sur place.
Et il y a d'autres lectures qui se sont entrecroisées dans.
Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire du schizo le héros des temps modernes. Vous voyez, parce qu'on aurait tendance à sortir de là, on dit vive ça, soyons schizo, soyons artistes. On est fou.
Il y a un extrait sur la psychiatrie à la page 119. Pas d'héroïsme donc de la psychose, mais au contraire, indexation sans complaisance du corps chaosmique qu'elle porte à l'incandescence. Et dont les déchets meurtris sont aujourd'hui laminés par la chimiothérapie, depuis que ce corps cosmique a cessé d'être cultivé, et sont donc laminés tels des fleurs monstrueuses, alors que la syntaxe de la phrase est horrible, mais l'idée c'est que dans la psychiatrie traditionnelle, il y avait des fous magnifiques à la Artaud par exemple, et qu'aujourd'hui, grâce à la chimiothérapie, il n'y a plus rien du tout que des gens qui.
Oui, ils sont presque normaux. Et ça précise encore ce que c'est que la cosmos. C'est-à-dire que c'est pas folie, c'est pas non plus art, mais c'est là où folie et art sont en fait en prise avec quelque chose qui n'est pas encore équilibré. Et qu'en effet, et Guattari dit très bien, il le dit dans, je montre là parce qu'il le disait là tout à l'heure, dans une interview à la télé grecque que vous voyez sur le net, il le dit, il n'y a pas que les artistes qui le font. Il y a quand on tombe amoureux, il y a quand on est malade, quand on apprend qu'on va mourir, il y a quand on est très enfant, quand on est super gâteux, il y a quand on tombe dans les siècles. Il y a des moments comme ça dans la vie où on ne sait pas et on refait. Ce sont ces moments-là qui sont les cosmos. Les moments du mal aussi. La situation.
Le processus de création, la formation de l'œuvre, son avènement, son mouvement d'apparition, peuvent-ils être vécus comme possibilité même de l'expérience? Et avant que celle-ci ne devienne expérience esthétique, possibilité donc de traduire et de former en un point de voir ce qui est au plus proche du réel, de l'être là des choses. Sans qu'il nous soit toujours possible d'en faire l'expérience véritable, ni même de donner une traduction de cette expérience, non pas le merveilleux ou l'extraordinaire, mais ce qui advient dans une dimension poétique de recherche de la présence, d'un pouvoir être qui semblait inaccessible, par où quelque chose nous arrive et nous révèle à nous-mêmes en nous indiquant le chemin d'une œuvre à venir. La représentation théâtrale, par exemple. Peut-elle être le vecteur? Peut-elle être vécue comme le cœur et la condition de cette tentative? Ou plus encore comme l'expérience elle-même? Processus qu'il devient délicat de décrire et qui plus est de circonscrire sans une praxis, sans en faire l'expérience. C'est alors qu'arriva le grand tremblement de terre, la transformation terrible qui soudain nécessita pour moi une loi d'éclaircissement nouvelle de l'ensemble des phénomènes. S'agissant de se demander si le processus de création, le phénomène d'apparition d'une œuvre, son devenir processuel pouvait être le support ou le vecteur d'une rencontre avec le réel et se traduire en expérience véritable, transmissible, partageable, il nous est apparu possible de nous tourner vers cette dimension d'existence esthétique telle qu'elle fut avancée par Kierkegaard et reprise par François de
Sales
dans son livre Le vécu de la fin du monde dans la folie.
L'existence
esthétique en tant qu'elle implique une fuite hors de soi accompagnée d'un détournement fut-il non définitif du monde réel.
Oui, tac à tac.
L'existence esthétique.
Vas-y voir là.
Au sens de Kierkegaard est une forme de vie où la dialectique de la catastrophe peut engager l'homme dans son ensemble. C'est ainsi que François Tosquelles en donne une traduction dans son livre. Il ajoute que les expériences vécues et la conduite qu'elles impliquent ont une nid. Les expériences vécues et la conduite qu'elle implique ont une unité et un sens en rapport avec la catastrophe.
Sapin.
Mais toutes ces ramifications...
Sapin solitaire.
Mais toutes ces ramifications et cette fuite...
Croissance.
Mais toutes ces ramifications... Mais toutes les ramifications de cette expérience nouvelle ne peuvent, selon lui, constituer un dépassement véritable de la catastrophe. Il ne s'agirait que d'un jeu de mirage.
Une existence illusoire. Longueur variable des chemins en zigzag. Déroulement rythmique.
Il ne s'agirait que d'un jeu de mirage. Une existence illusoire. Par où le monde ne parviendrait pas à être réactif. Et qui par un renversement soudain induit une qualité de présence. Une qualité de présence où le réel, sans se dissoudre absolument, se trouve être dans un état de corrélation nouvelle avec le possible. Le réel, donc, en tant que se serait substitué à lui les mondes possibles. Le réel, la possibilité est préférée à la réalité, dit encore Tosquelles. Mais s'agit-il seulement d'une substitution poétique, sans espoir que se greffe ou qu'elle vienne une logique poétique?
C'est possible d'avoir de la lumière?
Non seulement œuvre, mais d'existence, un nouveau mode d'être, déterminé alors par cette relation étroite
avec le possible
en tant qu'il est,
extralinéaire des horizontales et des verticales, paysage avec des accents.
Le
du spirituel et de l'individuel, selon une disposition linéaire
qui devrait nous permettre
et rythmique associée à l'alternance dense
entre les notions de pratique et de
lambeau de communauté.
Cette dichotomie
seuil animé d'un mouvement
ouvert, la perception, le sentir et la fermeture en soi et sur soi, la clôture, la perte
tableau
du réel.
Tableau de la jeune forêt. Dehors,
la psychose,
ses couleurs, tout le monde voit après. L'amour,
un rapport essentiel de l'être au monde.
Arc aquatique.
Dans quelle mesure le possible, en tant que pure projection d'existence, non vécue, peut-il retrouver la place, subvertir, se substituer ou subvertir l'objectivité du réel, sans pour autant conduire à l'apathie, à la mélancolie ou à la perte du désir? Constituer ainsi, si ce n'est le fond d'expérience, mais tout le moins le support de construction d'une expérience nouvelle. Ce qui prime dans la psy, ce qui prime dans le mode d'être de la psychose ou dans celui de la création esthétique. C'est l'irruption sur le devant de la scène d'un réel antérieur à la discursivité, dont la consistance pratique saute littéralement
mouvement
à la gorge.
Dans les écluses, chemin d'eau, château de l'ordre,
de même,
lieu brûlant,
ce qui fait œuvre dans la maladie, de même. Que ce qui fait œuvre dans la maladie est une reconstruction partielle, précaire, d'existence, un mouvement poétique, l'émergence du
mouvement,
lieu et droit de séjour à l'endroit même d'un
chemin
de sa présence, d'une perte du rapport au réel, de même le processus de création.
Flot. Baisse du flot. Figure de gauche.
Plus que d'entretenir une relation de
combat,
n'engage-t-il pas
les deux rives,
une dialectique constante,
gorge du fleuve,
entre la clôture,
le visage, également du corps,
l'opacité et l'éclosion, l'émergence, l'ouvert,
acrobatie de charge,
ce va-et-vient, cette alternance ne constitue-t-il pas la toile de fond par où ce qui nous arrive, l'ensemble des phénomènes qui nous
entourent
ne peuvent se transmuer en une forme et déterminer
ce
pouvoir que parce qu'ils sont soumis à des perturbations, tremblements, effondrements, et ne peuvent nous indiquer le chemin d'une œuvre à venir qu'à cette condition. C'est ce qu'atteste l'aura
psychique
associant un sentiment de catastrophe de fin du monde. François Tosquelles, le sentiment bouleversant d'une rédemption imminente.
Les deux rives.
Ou en d'autres termes, l'aller
gorge du fleuve.
Entre une complexité
le visage également du corps.
Du sens et une totale vacuité.
Acrobatie de charge.
Sans appel de la chaos.
Au sauvage. La guerre passe sur une bourgade.
C'est en ce lieu incertain
de
l'avènement
de oiseaux voyageurs. Rotation,
et parce que celui-ci
la porte,
est en proie
rêve de
à une contradiction, fissure,
croissement,
qui vont permettre l'apparition d'un espace, d'une scène, que le possible devient le tenant lieu du réel. Et c'est seulement à cette condition que nous pouvons accéder à la réalité de l'expérience. C'est cette position face à l'inconnu, cette tenue face à ce qui se dérobe, ce déplacement hors de soi, qui permet non seulement d'envisager la vie d'un autre monde possible, mais également d'atteindre la partie de la vie dans le monde de la vie 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 de en soi de ce qui nous est absolument et essentiellement étranger. Si le processus de création, le phénomène d'apparition d'une œuvre, son devenir processuel pouvait être le support ou le vecteur d'une rencontre avec le réel et se traduire en expérience véritable, transmissible, partageable, il nous est apparu possible de nous tourner vers cette dimension d'existence esthétique telle qu'elle fut avancée par Kierkegaard et reprise par François Mesmer dans son livre. Existence est une en tant que une fille de soi, Je crois qu'après, c'est fini. On n'a rien prévu d'autre.